Nous vous recommandons de ne pas modifier pendant l'écoute le réglage.
Je capte plus rien.
C'est déjà assez difficile sur la fréquence micro-ondes, mais sur la fréquence modulée avec toutes ces interférences, j'ignore pourquoi je t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM.
Il s'agit au contraire de redonner à cette notion de service public son véritable sens.
93.1.
Pourquoi ne pas chercher une aiguille dans une botte d'aiguille?
01 40 24 29 29.
Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et détendez-vous le plus possible.
Voilà, maintenant vous pouvez arrêter la télévision, vous verrez, ça fait du bien.
Sommes-nous là? Ouh là là! Qu'est-ce qui nous arrive là? Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui! Mais oui, ça y est, j'y suis. Ça y est, j'ai compris, c'est bien sûr l'heure de l'émission. Où avais-je la tête? C'est l'heure de l'émission, tout simplement. Et je sais que tout va bien se dérouler et que nous allons découvrir plein de choses aujourd'hui, j'en suis convaincu. Julie, est-ce que vous êtes d'une nature sportive?
Moi, c'est Lucie.
Oh, bah ça y est, je me suis planté. Lucie, est-ce que vous êtes d'une nature sportive?
Alors, de base, j'aime bien le sport, c'est vrai. Et j'ai pratiqué quelques sports quand j'étais enfant. Après, il se trouve que j'ai eu une déformation à la cheville et donc j'ai été opérée récemment. Puis il y a eu le Covid qui a fait que les activités sportives ont cessé pendant un moment. Donc, on va dire que j'étais pas préparée physiquement à marcher sur plusieurs mois.
Eh ben justement, on va parler de tout ça avec vous et nous sommes évidemment ravis de vous recevoir aujourd'hui. Parce que vous faites quelque chose de pas banal du tout. Alors, j'ai une nouvelle à vous annoncer, hein. C'est une tradition dans cette émission, et c'est le cas pour chaque invité qui accepte de nous accorder un entretien. Voici donc, à partir de cet instant, notre nouvelle étincelle dans la ville du jour. Alors, on va dire étincelle dans la campagne. Vous allez voir, c'est un peu particulier, c'est sur Allegre FM. Allez, en route vers de nouvelles aventures.
Bonjour, vous savez où vous êtes? Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Allegre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Au bip, vous laissez votre message.
N'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'étincelle dans la ville sur Allegre. Aujourd'hui, une étincelle dans la campagne. Ravi de vous retrouver à mes côtés. Alors, pas tout à fait à mes côtés, mais je vous expliquerai un peu plus loin ce qui se passe. Dans des conditions très très particulières et assez nouvelles, Lucie Beaujean. Bonjour Lucie, j'ai pas écorché votre prénom ce coup-ci. Bonjour.
Bonjour Francis.
Alors, vous êtes dans une situation assez particulière et on va la décrire dans quelques instants, mais je voudrais vous signaler que c'est depuis la merveilleuse et délicieuse ville de Figeac dans le département du Lot où je me situe actuellement que nous réalisons cette étincelle dans la ville, cette étincelle dans la campagne. Qui sera aujourd'hui donc avec vous, Lucie Beaujean, où vous-même vous vous trouvez de l'autre côté du département, en pleine nature, en pleine campagne. On entend même, je crois, les oiseaux. Et vous nous préciserez d'ailleurs un peu plus loin l'endroit où vous vous situez. Et bien sûr, c'est grâce aux prouesses de la régie technique finale son d'Allegre FM que nous pouvons réaliser cette émission. Bonjour à toute l'équipe parisienne. Alors, est-ce que tout va bien à Paris? Est-ce que tout se passe bien de votre côté?
Bonjour à tous, tout se passe bien.
Super. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous de ce que vous êtes en train de réaliser, Lucie Beaujean. Et c'est très, très loin d'être très banal. Lorsque je vous ai rencontré il y a quelques jours, vous m'avez épaté. Et lorsque je vous ai... Et lorsque je vous ai proposé de réaliser cet entretien qui va suivre avec vous, c'est sans hésitation que vous avez accepté. Lucie, je vous en remercie.
Mais c'est avec plaisir.
Alors, on va commencer par le commencement, avant d'entrer dans les détails un peu plus loin, d'un choix très personnel qui vous anime et qui a débuté en janvier. Mais bon, pour que nos auditeurs comprennent bien, j'aimerais savoir ce que vous faisiez avant le mois de janvier. J'aimerais savoir, au départ, qui vous êtes avant ce départ incroyable dont on va parler et qui vous mène là où vous êtes aujourd'hui.
Eh bien, avant d'entamer ce pèlerinage, j'étais une étudiante, comme beaucoup de gens de mon âge. Donc, j'étudiais à l'Université de Liège, en Belgique. Et voilà, j'avais entamé un cursus en histoire de l'art et en musicologie.
Vous meniez une vie... finalement, bien classique, d'une jeune étudiante en Belgique.
Voilà, c'est ça. J'allais tous les matins en cours, je prenais le train, je rentrais et je jouais un peu de piano. Et voilà, le train-train d'une étudiante.
Ok. Alors, j'imagine que ce n'est pas sur un simple coup de tête que ce que vous réalisez actuellement s'est décidé. Hein. Nous, on aimerait savoir, en tout cas, c'est ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez préparé cette longue aventure qui va durer plusieurs mois et dont vous êtes, on va dire ça comme ça, l'actrice principale. J'imagine que vous avez quand même préparé soigneusement ce qui vous arrive actuellement.
Eh bien oui et non, en fait. Je n'ai pas réfléchi à ce projet depuis tant que ça, finalement. Ça a peut-être émergé quelques mois avant que je parte. Et je pense que le fait que je sois de nouveau dans un environnement qui ne me permettait pas de m'épanouir, pour une deuxième fois, là je me suis dit, ok, il faut que je sorte de cet environnement d'une coupure nette. Et pour moi, la marche sur le long terme, dans la nature, en solitude, c'était un peu une évidence et c'était nécessaire que je le fasse maintenant.
Alors, cette coupure, c'est clair, vous l'avez installée dans votre vie personnelle. Et lors de notre première rencontre, j'ai senti chez vous quelque chose de très intérieur, de très puissant, quelque chose de très solide, car il faut avoir les pieds bien sur terre et la tête bien sur les épaules pour réaliser ce que vous faites depuis janvier. Car je répète la chose, c'est loin d'être banal. Hein. Alors, avec vous, durant l'heure qui va suivre, nous allons essayer de mieux comprendre comment ça se passe. Et nous allons analyser et détailler ce phénomène incroyable des marcheurs et nous intéresser tout particulièrement à celles et ceux qui marchent et dont vous faites partie dorénavant, puisque c'est sur le chemin de Compostelle à la hauteur de Figeac dans le département du Lot que nous sommes rencontrés la première fois.
Et exact.
Nous sommes certains que nous allons découvrir plein de choses dans ce qui va suivre, des choses qui vont nous interpeller, en tout cas moi qui m'ont interpellé. Alors, permettez-moi un petit détour pour nos auditeurs, c'est quoi les chemins de Compostelle ? Alors, les chemins de Compostelle, ce sont des itinéraires empruntés par les pèlerins pour se rendre à Saint-Jacques de Compostelle. Si vous prenez une carte de l'Espagne, vous pourrez y découvrir le Portugal sur la façade ouest, celle qui donne sur l'océan Atlantique. Et c'est très simple, juste au-dessus du Portugal, au nord du Portugal, vous pourrez y découvrir Saint-Jacques de Compostelle, le terminus des chemins de Compostelle en Europe. Alors, pour la France, il y a quatre routes, vous me suivez toujours, hein. Quatre routes qui mènent à Saint-Jacques. Elles se réunissent en une seule à Puente la Reina, en territoire espagnol, juste derrière la barrière des Pyrénées. L'une de ces routes passe par Saint-Gilles-du-Gard, Montpellier, Toulouse, Le Somport. Hein, si vous avez la carte de la France dans la tête, vous voyez ce que je veux dire. Le deuxième chemin passe par Notre-Dame-du-Puy, le centre du Massif central. Le troisième passe par Vézelay et la ville de Périgueux, et le quatrième chemin passe par, on va dire, allez, Bordeaux pour faire plus simple. Mais en réalité, aujourd'hui, les chemins de Compostelle, il y en a dans toute l'Europe, qui se rejoignent les uns les autres comme une immense toile pour finir, bien sûr, à Saint-Jacques de Compostelle, la destination sur laquelle vous allez arriver Alors, certains démarrent de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Hollande, de la Belgique, de l'Italie, de la République tchèque. Bref, j'arrête la liste, elle est trop longue. Mais vous, Lucie, vous avez démarré en Belgique. Et c'est depuis la Belgique que vous avez commencé votre périple, si j'ai bien tout compris. Et quand vous serez au bout du chemin que vous avez choisi, vous aurez alors parcouru 1500 km à pied. Lucie, ça va comment vos pieds, vos jambes et votre corps?
Ah, mais une fois à Saint-Jacques, ce sera même plus de 2500.
Combien?
Plus de 2500.
Ah ben, je me suis encore planté, j'ai pas fait mon... Mais c'est gigantesque, vous faites tout à pied, Lucie?
Ah oui, je fais tout à pied, c'est l'idée, c'est le but. Et tout à mon rythme aussi. Et en fait, je m'identifie vraiment comme une pèlerine et pas comme une randonneuse. Je veux dire, je pense que les randonneurs ont peut-être un objectif sur le plus court terme et peut-être plus sportif. Et au début, c'est vrai que j'avais un rythme plus soutenu. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je recherchais. Je n'avais pas du tout le même objectif qu'un randonneur, on va dire.
Est-ce qu'il y a une dimension spirituelle dans la démarche et dans la marche que vous pratiquez depuis des semaines et des semaines et des semaines?
Mais ça dépend, vous entendez quoi par démarche spirituelle?
Est-ce que vous croyez en Dieu?
Ah, c'est assez. C'est pas facile de répondre à cette question. Mais en tout cas, de manière plus générale, je crois en des faits qui sont invisibles dans le monde matériel directement. Je ne sais pas si on peut appeler ça Dieu, mais on va dire que je ne suis pas à 100% rationnelle non plus.
En tout cas, ces chemins de Compostelle, ce chemin de Compostelle qui finit donc en Espagne, a une forte symbolique religieuse, puisque ce sont les pèlerins qui l'empruntent depuis, je n'ai même pas la date de départ. Hein. Est-ce que vous considérez comme un pèlerin classique?
Je ne sais pas ce que c'est vraiment un pèlerin classique, parce que si on dit classique dans la norme, actuellement non, parce que la plupart des pèlerins font leur pèlerinage différemment. Et d'un autre côté, le pèlerinage actuel se fait avec des moyens qui sont différents aussi de ceux utilisés au Moyen-Âge. Après, chaque personne que je rencontre fait ça aussi pour des buts différents à chaque fois et de manière à sa propre façon finalement. Donc, je suis... pas forcément pèlerine classique, mais pas forcément pèlerine atypique non plus.
Alors, vous êtes devenue une vraie libellule des prés après avoir quitté votre ville de Namur, en Belgique. Alors, c'est vrai que dans ce quotidien parfois si effréné que nous rencontrons trop souvent dans nos villes, tout ceci doit nous amener, nous tous, à nous poser la question sur nos besoins nécessaires que nous devons mettre en place pour renouer avec un temps libre dans un choix libre. C'est votre choix.
Ah oui, vraiment. Et en fait, je pense que j'avais bien sûr déjà lu quelques livres qui parlaient de pouvoir se libérer de choses matérielles. Et puis je pense que beaucoup de personnes sont conscientes que ça a une certaine limite. Ça ne fait pas le bonheur, il faut un minimum de confort, mais ce n'est probablement pas ça qui fera notre bonheur. Et d'un autre côté, on a beau le savoir, en tout cas, pour ma part, c'était pas suffisant d'avoir que la théorie. Il fallait que je le mette en pratique et que je le vive à travers des expériences comme sur le chemin.
Et bien justement, pour ceux qui viennent nous rejoindre, je rappelle que nous réalisons cette émission en votre compagnie, Lucie, et que vous vous situez quelque part. Vous êtes toujours dans le Lot, hein, je dis pas de bêtises.
Oui, je suis toujours dans le Lot, je pense bien.
Voilà, et sur un chemin, racontez-nous qu'est-ce qu'il y a autour de vous.
Alors, il y a des pâquerettes un peu partout. Les arbres sont en fleurs, les arbres sont verts et ça fait du bien. Le ciel est bleu aujourd'hui. Et ici, je me suis arrêtée dans un petit jardin, qui appartient à un couple qui tient un gîte de pèlerins.
Voilà. Et moi, je vous avais rencontré. Alors, je vais raconter, vous allez nous raconter un peu plus loin comment vous procédez, parce que tous les jours, il y a plein de choses à faire. Bon, alors déjà, il y a une distance à parcourir, il faut se nourrir, il faut dormir, il faut prendre une douche de temps en temps. Alors, On va y venir à ces détails, parce que moi, ça, j'ai un côté comme ça, très pratique aussi, vous voyez. Mais avant de poursuivre cet entretien avec vous, Lucie, et avant d'entrer vraiment dans le cœur du sujet qui nous anime aujourd'hui, permettez-moi de faire un petit détour par le studio. J'en ai fait un premier, et je voudrais aussi préciser que je suis très heureux de réaliser cette étincelle dans la ville en duplex, en triplex en réalité, c'est une première pour nous, hein, depuis les nouveaux studios Vanini, et j'en profite en même temps pour saluer toutes les équipes de la Ligue de l'enseignement Fédération de Paris qui nous accueillent, car c'est dans un des centres depuis Paris animés par la Ligue de l'enseignement où sont installés le studio et la régie technique, et c'est sur Aligre FM. Alors, vous restez bien avec nous, parce que ce qui va suivre va être encore plein d'enseignements. Vous avez déjà commencé à nous raconter un certain nombre de choses. Lucie, on va faire une première halte, hein. On va prendre son temps, comme vous le faites depuis janvier. Vous êtes partie quand, janvier ?
Le 31 janvier, le dernier jour de janvier.
Ça fait donc plus de 2 mois que vous marchez.
Ouais, plus de 2 mois et demi.
Eh bien, on va continuer avec vous, mais en attendant, on l'aime bien sur Aligre. Il est surnommé l'amiral. Il est auteur, compositeur, interprète. Il est franco-américain. Il est né à Nérac, dans le Lot-et-Garonne, pas très loin de là où vous vous trouvez, moi aussi. C'est un pianiste, un mélodiste pop. Il cultive une apparence singulière. Il est le compositeur et l'interprète de plusieurs succès populaires, Love Me, Please Love Me, La poupée qui fait non, ça doit vous dire quelque chose, Le bal des Lazes, un merveilleux poème. Tout pour ma chérie, je suis un homme aussi. Allez, et puis il a même écrit et chanté On ira tous au paradis, bah, j'espère qu'on va tous y aller, Lettre à France ou encore Goodbye Marilou. En 72, paraît la mouche Holiday, On ira tous au paradis, et c'est aussi l'année du concert Polna Révolution à l'Olympia. Les 6000 affiches de ce concert font scandale lorsqu'elles sont placardées le 2 octobre 72 dans la capitale. Il y apparaît travesti et il montre ses fesses nues. Le tribunal correctionnel le condamne à 60 000 francs d'amende. On écoute Michel Polnareff, c'est une chanson qui a pour titre Amka Aline, c'est sur Aligre, dans l'étincelle, dans la ville, dans l'étincelle, dans la campagne. Allez, on y va.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Âme câline, cherche cœur libre tous les jours, toutes les nuits. Âme câline, offre-moi tout près du soleil, près des étoiles, pour logis, pour la vie, ou peut-être moins. Peut-être plus. Âme impatiente, aimerait trouver âme sœur pour compagnie ou amie. Peut-être plus pour la vie, ou peut-être moins. Âme câline, cherche cœur libre tous les jours, toutes les nuits, pour la vie. Âme câline, près du soleil, près des étoiles, pour le jour, oh, 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 toutes les nuits.
êtes bien sur la messagerie de l'Étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM. Laissez-moi votre message juste après le bip.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Et de retour dans l'Étincelle, on vient d'écouter Michel Polnareff avec cette formidable chanson qui avait pour titre « Âme câline, une montagne de poésie ». Vous connaissiez, Lucie, Michel Polnareff ?
Oui, je connais Michel Polnareff, mais cette chanson-là, je ne la connaissais pas.
Voilà, et on continue avec vous, car je rappelle à nos auditeurs que nous réalisons cette émission depuis la campagne. Cette émission a pris la clé des champs, et donc vous êtes notre étincelle dans la campagne, Lucie. Lucie, vous vous situez au milieu de la campagne du Sud-Ouest. Comment ça se passe avec la météo ? Comment ça se passe au fur et à mesure que vous avancez ? La pluie, le soleil, le froid ? Racontez-nous.
Eh ben pour le moment, c'est encore assez variable. Par exemple, la nuit passée, il a fait moins 1 degré, donc c'était encore assez frais. Et hier, on a eu encore les giboulées, donc voilà, il ne fait pas encore très chaud. Mais aujourd'hui, c'est une belle journée, donc c'est assez agréable.
Alors, vous êtes bien équipée, j'imagine.
Eh ben, je vais dire que j'ai le minimum.
Quand je vous ai croisé, je vous ai vu, vous avez pas de tente, vous avez pas de, enfin bon, vous avez un caouet, vous avez quand même bon des vêtements chauds bien sûr. Alors, allez, on va aller direct à la question là. Vous avez dormi où hier soir ?
Eh bien, hier soir, j'ai dormi sur une terrasse à l'air, avec beaucoup de couvertures.
Parce que en réalité. Vous procédez de la façon suivante, si j'ai tout bien compris. Vous frappez aux portes pour dormir. Racontez-nous comment ça se passe.
Oui, exactement. Je frappe en fait à n'importe quelle porte, à part si j'ai un mauvais sentiment. Et après, je m'adresse aux personnes et je leur demande si c'est possible pour elles de m'héberger cette nuit.
Voilà, vous faites comme ce journaliste qui fait le tour de la Terre. J'irai dormir chez vous ce soir. Salut, c'est moi Lucie. Voilà, je passe par là. Est-ce que vous avez un canapé, un matelas, un petit endroit où je peux m'installer pour la nuit ? Merci. Et alors, comment ça marche ? Une fois sur deux, une fois sur cinq, une fois sur dix ?
Ouf, alors c'est très, c'est assez variable. C'est très rare que ce soit les premières maisons. Je dirais en moyenne qu'il me faut plus ou moins une petite heure pour trouver. Parfois c'est plus, parfois c'est moins. Parfois ça m'a pris plus de 2 heures. Mais comme vous dites, parfois c'est la première porte. Ça, je ne sais jamais.
Voilà, quand je vous ai rencontré l'autre jour, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez sonné là où j'étais. C'était la première porte ?
Oui, c'était la toute première.
Eh bien, ça vous a porté chance. Hein ?
On dirait, oui.
Alors, vous essayez de vous arranger aussi pour arriver dans là où il y a des habitations. C'est pas au milieu des champs qu'on trouve une maison. Ou alors, c'est plus difficile, on dira ça comme ça.
Oui, oui, j'essaye de... Alors, je suis partie sans carte et sans guide. J'ai quand même un téléphone. Et donc, je peux toujours avoir un plan sous les yeux. Après, le balisage depuis le Puy-en-Velay est vraiment bien fait. Et donc, il y a des panneaux qui indiquent combien de kilomètres il reste jusqu'au prochain village. Et donc, en général, je me fie à ça. Et vers début d'après-midi, je me dis, OK, où est-ce que je m'arrête plus ou moins ?
C'est ça. Dès le début de l'après-midi, une de vos préoccupations, c'est d'essayer de trouver un point d'atterrissage pour trouver un toit pour la nuit.
Voilà, ça peut être pas mal.
Alors... Vous êtes dans le Lot, vous avez le nom d'un village pour, on ne sait jamais s'il y en a qui connaissent dans nos auditeurs.
Alors ici, je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêtée, mais je suis entre Sauliac-sur-Célé et Cambrerets. Voilà, je fais la voie du Célé pour le moment.
Voilà, alors le Célé, on connaît un peu mieux pour certains, ceux qui sont très forts en géographie. Vous avancez, vous parcourez quel genre de distance par jour ?
Alors, je fais plus ou moins une vingtaine. C'est un bon rythme pour moi. C'est ce que mon corps est capable de faire.
Alors, si on divise... combien vous m'avez dit, ça fait en tout D'un bout à l'autre.
2500 peut-être.
Eh ben, on divise 2500 par 20. Je vous laisse faire le calcul. Vous voyez un peu le nombre de jours que ça représente. Vous faites des pauses parfois. Vous prenez des week-ends. Vous mettez en vacances de temps en temps. Ou vous marchez tous les jours.
Non, je marche pas tous les jours non-stop. Il m'est déjà arrivé de me poser à certains endroits pendant un jour, voire même plus. Je pense que le plus que j'ai fait, c'est 4 jours.
Alors, on va aller maintenant un peu plus loin tous les deux, Lucie, si vous me le permettez. Qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser cette marche, cette longue marche que vous avez entamée en janvier ?
Eh bien, comme je l'avais dit au début, j'étais dans un environnement qui ne me permettait pas de m'épanouir. Et en même temps, je n'arrivais pas non plus à trouver une solution en restant là-dedans. Et parfois, en fait, souvent, je pense que quand on est dans un environnement avec aussi peut-être que ce soit les personnes ou la pression autour qui nous empêche de pouvoir prendre du recul, il faut physiquement sortir de cet environnement et c'est ce que j'ai fait.
Et c'est ce que vous faites, effectivement. Alors, une petite question aussi qui m'a hanté l'esprit depuis que je vous ai rencontré. Comment vous faites financièrement ?
Pendant mes études, donc avant d'avoir fait l'histoire de l'art cette année, j'avais fait quelques années en psychologie. Et donc, depuis que j'ai commencé mes études, j'ai essayé d'avoir des petits jobs d'étudiant pour payer une partie de ce que j'ai à payer pendant mes études et aussi pour économiser un peu, sans avoir l'idée de ce pèlerinage, bien sûr. Et donc, voilà, ce que j'ai réussi à mettre de côté pendant quelques années, c'est ce qui me permet de me nourrir un peu tous les jours.
Incroyable. Et en plus, alors, vous êtes extrêmement pointu dans votre façon de fonctionner financièrement, parce que au pire, si vous ne trouvez pas un endroit où vous pouvez être gentiment accueilli, gratuitement, bien sûr, ce qui est évidemment le plus avantageux, vous pouvez éventuellement financer une nuit, mais alors, ça ne doit pas dépasser, si j'ai bien compris, 20 euros, hein, c'est ça ?
Voilà, j'essaie, oui, de ne pas aller dormir dans les hôtels. Ce n'est pas vraiment dans mes moyens. Après, ça m'est déjà arrivé de le faire quand j'avais rien d'autre et que j'avais vraiment besoin de dormir. Je savais que si je ne me posais pas cette nuit-là, le lendemain matin, je serais claquée.
Alors, je fais un appel pour les auditeurs qui sont sur le chemin de Compostelle. Hein. Si vous croisez Lucie, eh bien, n'hésitez pas, hein. Regardez, elle vous raconte une belle histoire, elle fait un truc absolument incroyable. Et on va faire une deuxième pause tous les deux, si vous me permettez, une deuxième pause musicale. Alors là, on va passer sur le rap. Hein. Il s'agit d'un groupe de rap celtique. En 98, Martial Tricoche et Cédric Soubiron créent ce groupe réputé pour le tube « La tribu de Dana ». Lors de leur premier album Panique Celtique, qui est récompensé par une victoire de la musique, meilleur album rap ou groove de l'année en 99. Allez, on écoute La Tribu de Dana, le rap comme je l'aime, c'est sur Aligre. J'aime pas que ce rap, mais je l'aime bien celui-là, et c'est dans L'Étincelle dans la ville.
Sur les plaines de la Bretagne armoricaine, je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorgées d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana.
Dans la vallée, dans la vallée, dans la vallée, dans la vallée, plus longtemps de désespoir. quelques incantations de druides et de magie. Tout attribut, le glaive en main courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des armes que possédaient tous ces barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulaient du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrêmement plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là. Et pour toutes les lois de la tribu de Dana. On entendait le son d'une corne, d'un chef ennemi qui rappelait toute sa horde. Avait-il compris qu'on lutterait même en enfer, et qu'à la tribu de Dana appartenait ses terres? Les guerriers repartaient, je ne comprenais pas tout le chemin qu'ils avaient fait pour en arriver là. Quand mon regard se posa tout autour de moi, j'étais le seul debout de la tribu, voilà pourquoi. Mes doigts se sont écartés tout en lâchant mes armes, et le long de mes joues se sont mis à couler des larmes. Je n'ai jamais compris pourquoi les dieux m'ont épargné de ce jour noir de notre histoire que j'ai compté. Le vent souffle toujours sur la Bretagne armoricaine, et j'ai rejoint ma femme, mon fils et mon domaine. J'ai tout reconstruit de mes mains pour en arriver là. Je suis devenu roi de la tribu de Dana.
Eh bien, vous êtes sur la messagerie de l'émission L'étincelle dans la ville, présentée par Babanzelli sur Aligre FM 93.1. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au bip, vous laissez votre message.
Messagerie, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip.
Et oui, de retour dans L'étincelle dans la ville, devenue L'étincelle dans la campagne, après cette deuxième pause musicale que nous venons d'écouter, la tribu de Dana. Pas très loin de moi, Lucie Beaujean. Ça va, Lucie?
Ça va toujours bien.
Ça se passe bien?
Très bien, oui. Je suis installée dans le jardin.
Alors, bon, bah, c'est très bien. Et grâce aux ondes, nous sommes tous les deux très éloignés, puisque nous sommes à peut-être, je ne sais pas, 50, 80, 100 kilomètres de là où je me situe. Alors, on a vu en début de cette émission comment votre aventure a démarré. Alors, je rappelle quand même pour ceux qui viennent d'arriver, hein, les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, que vous avez entamé un périple depuis la Belgique qui va durer plusieurs mois pour vous rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Rappelez-moi la distance, parce que c'est gigantesque.
Alors en fait, de la Belgique jusqu'au Puy-en-Velay, je pense que j'ai mis plus ou moins 1000 bornes, enfin 1000 kilomètres. Et puis après, du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, on a plus ou moins 1500. Donc, je dirais 2500.
Voilà. Et que vous parcourez à pied, voilà, tout simplement. Alors, pendant tout ce trajet, vous en croisez du monde. On a vu en première partie d'émission que vous frappez aux portes pour trouver un lit, un matelas pour dormir le soir, ou vous essayez de vous installer dans un endroit le plus confortable possible, et vous rencontrez des gens. Alors, les rencontres, vous en faites plein.
Ah oui, j'en fais plein, et je rencontre tout type de personnes. Et c'est vrai que quand je fais... quand je vais faire du porte-à-porte, ça peut autant être des personnes de l'âge de mes parents, de l'âge de mes grands-parents. Il y a aussi un couple de mon âge presque qui m'a accueillie, donc assez jeune. Et puis, c'est aussi les familles qui m'accueillent parfois ou les personnes seules et de milieux assez différents. Et depuis le Puy-en-Velay, j'ai fait quelques soirs en gîte de pèlerin. Donc, je rencontre d'autres pèlerins, ce qui est très agréable aussi.
Dans ces gîtes, alors il faut le préciser, le long de ce chemin, il y a évidemment des gîtes qui sont prévus pour les pèlerins, adaptés à la situation et qui leur permettent de faire étape par étape une halte.
Oui, c'est ça. Il y en a pas mal qui sont installés sur le chemin du Puy. Je pense que c'est un des plus fréquentés. Et après, pour le moment, on est encore en saison raisonnable. Et je pense qu'à partir du mois de mai, les gîtes seront pas mal remplis.
Alors, c'est vrai que ces chemins de Compostelle, et si cette rencontre qui s'est faite entre nous, entre tous les deux, est l'occasion pour aujourd'hui pour réaliser cette émission, c'est parce que les chemins de Compostelle, ça prend une ampleur démesurée. On le voit d'année en année, des milliers de gens... On n'est pas forcé de faire du début jusqu'à la fin, hein, le chemin. Bon, vous, c'est quand même très particulier, mais c'est vrai qu'on voit un engouement, une appétence pour ces chemins. Parce que qu'est-ce qu'ils ont de particulier, finalement, ces chemins, Lucie ?
Je pense que certaines voies, en fait, passent par déjà de beaux endroits. En France, par exemple, où on est vraiment dans la nature, et je pense par exemple à l'Aubrac que j'ai parcouru il y a quelques jours, voire quelques semaines, c'est un endroit assez isolé. En parlant avec d'autres marcheurs, certains me disent aussi qu'ils viennent ici pour, parce qu'en fait, le chemin est très bien balisé, donc c'est quasi impossible de se perdre, et en même temps, on passe par des petits chemins vraiment en pleine nature. Et aussi, il y a pas mal d'infrastructures comme les gîtes, justement, qui permettent aux marcheurs d'être assez confort, finalement.
Alors, vous rencontrez du monde, vous tapez la causette, bien sûr. Chacun raconte son histoire, chacun raconte ses histoires. Mais par moments, vous êtes quand même bien seul. Vous marchez toute seule.
Oui, la plupart du temps, d'ailleurs. Avant le Puy-en-Velay, j'étais tout le temps toute seule. Tout le temps toute seule sur le chemin.
Alors, comment ça se passe dans ces grands moments de solitude ?
Eh bien, il y a pas mal de pensées qui viennent, qui reviennent. Et puis, parfois, en fait, mon esprit n'est pas vide, mais il est plus serein. Et puis aussi, en fait, marcher à l'allure du pas et avoir juste soi-même comme compagnie, ça laisse le temps de regarder tout ce qu'il y a autour de soi. Et en fait, même si le chemin semble redondant, eh bien, je m'ennuie jamais.
Et vous vous ennuyez tellement pas que vous m'avez même dit, je suis en train de réfléchir, alors c'est énorme, hein, vous n'avez pas fini d'arriver à Saint-Jacques, vous y pensez déjà, que vous envisagez éventuellement de refaire le même chemin, mais en sens inverse, depuis l'Espagne jusqu'à la Belgique. Vous le sentez toujours ce coup-là ?
Eh bien, c'est une éventualité, en fait. En tout cas, je ne souhaite pas rentrer en avion ou en train sur seulement une journée, parce que ce serait un peu brutal, en fait, comme retour.
Un peu brutal comme retour. On va essayer de ne pas être brutal avec vous, comme on essaye de le faire depuis le début de cette émission. Je voudrais juste poser une petite question à la régie. Il nous reste combien de temps pour l'émission ?
Tu m'entends ?
Oui, très bien.
Alors, il reste exactement 15 minutes, on va dire.
Allez, on a le temps de faire une nouvelle pause musicale.
On a le temps.
Allez, elle est née à Londres en 83. Elle est morte en 2011, à l'âge de 27 ans. Elle a rejoint d'autres figures de la musique mortes à l'âge de 27 ans, comme Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Brian Jones. Bref, le club des 27. Cette chanteuse fut autrice, compositrice, interprète, guitariste. Elle avait la voix de Dinah Washington, de Sarah Vaughan, de Wanda Jackson, et d'une manière générale, dans sa musique, on y retrouve un mélange avec des styles très différents, du jazz, du blues, de la soul music. Elle a également attiré de nombreux médias pour son apparence, notamment sa coiffure avec des cheveux crêpés noirs de jais et son chignon choucroute, style années 60. Et puis ses tatouages, son maquillage appuyé à l'eyeliner. Et puis, bien sûr, de nombreux stylistes se sont inspirés d'elle. En 2006, à peine âgée de 23 ans, vous avez quel âge, Lucie ?
J'ai 20 ans.
Eh bien, voilà. À l'âge de 23 ans, pour elle, tout explose. C'est ce qui est votre cas. Beaucoup de choses doivent exploser en ce moment. Elle fait son second album intitulé « Back to Black », qui devient numéro un des ventes dans plusieurs pays. Cet album la propulse au rang de star planétaire. On écoute. Alors, on le prononce comme on veut. Hein. Amy Winehouse. Amy Winehouse. Comment vous le prononceriez, vous, Lucie ?
Amy Winehouse.
Voilà. Et le titre, c'est « Back to Black ». Vous le connaissez. Allez, on écoute.
So far, move. Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et c'est sur Allegre FM, c'était Back to Black. Et je sens que l'étincelle va bientôt se terminer et que la petite nappe musicale va pas tarder à démarrer. Mais avant de nous quitter complètement, je voudrais aussi remercier tous les membres du collectif qui travaillent sur l'organisation et la gestion d'Allegre FM, tous les bénévoles qui au quotidien sont en action, Nadia, Bruno, Jean-Marc, Pascal, Étienne, Douglas, Rita, Gilles. La liste est trop longue, ne m'en voulez pas. Merci à vous tous. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe technique à la régie finale. Merci Thomas, Tranier, Armand, Enrico, Mastro, Giovanni. Je l'ai bien prononcé hein, ce coup-ci. Carl, Alexandre et Dariano qui viennent de nous rejoindre. Ça s'est bien passé pour vous de votre côté ?
Très bien.
Super. Et sans oublier l'équipe de production de l'Étincelle dans la ville, Stéphanie Malaret, Gaspard Proudhon, que je remercie, que j'embrasse très fort. Vous êtes vous aussi des étincelles qui brillent dans les coulisses de cette production. Alors, que vous soyez créateur d'événements, que vous soyez imaginatif, comme vous l'êtes, Lucie, que vous soyez transmetteur de savoir, témoin avisé, bref, si vous avez des idées, si vous avez fait des choses incroyables, votre parcours nous intéresse, vous avez une adresse mail que vous pouvez retrouver sur le site d'Allegre FM. Lucie, merci d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien. Mais avant que l'on se quitte, est-ce que l'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ? Quelque part, vous raconter votre aventure ?
Ah, je pense qu'on avait été coupé. Vous pouvez répéter ?
Est-ce que on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ? Est-ce que quelque part, vous racontez votre aventure ?
Alors, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je n'étais pas avant de partir et je n'ai pas décidé de créer un blog non plus pour partir parce que je ne voulais pas que ça devienne une contrainte ou une obligation. Et je voulais vraiment le faire pour moi-même et quand je voulais vraiment plusieurs jours me mettre dans ma bulle, ne pas avoir cette charge entre guillemets mentale. Après, évidemment, je tiens au courant ma famille, mes amis, les personnes que je rencontre, je reste en contact avec aussi. Donc voilà, vous ne pouvez pas me suivre sur Facebook.
Bon, en tout cas, si vous en êtes d'accord, nous serons ravis de vous suivre de temps à autre et de vous demander des nouvelles pour l'étincelle dans la ville. Vous en êtes d'accord ?
Avec plaisir.
Génial. Sur ce chemin de Compostelle que vous parcourez à pied, eh bien, on sera ravis de savoir où vous en êtes. Voilà, j'aimerais recommander un ouvrage aussi, vous en avez peut-être entendu parler, il a pour titre « Penser en chemin à ma France, des Ardennes au Pays Basque ». On le trouve en livre de poche, c'est le récit d'un voyage fait par un homme qui a emprunté grosso modo le même chemin que vous, Lucie. Il s'appelle Axel Kahn, un marcheur, on le savait, généticien, médecin, humaniste. Il a fait ce chemin aussi à pied, comme vous le faites en ce moment. Voilà. Une occasion pour rencontrer des hommes, des femmes, vous nous avez déjà raconté. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation au micro d'un livre. Alors, vous nous tenez informés, hein ?
Avec plaisir, bien sûr.
Voilà, on organisera ça, Enrico, et avec toute l'équipe technique, on fera des petites incursions dans votre aventure et on sera ravis d'en évoquer là où vous en êtes, de raconter là où vous en êtes, voilà. Une telle aventure sur les chemins de Compostelle, c'est quand même pas de la tarte aux pommes, hein, franchement. Alors, une dernière question. Vous avez un conseil à donner à ceux qui voudraient vous imiter ?
Ah ben justement, ne m'imitez pas. Chacun doit vivre son expérience. Et avant que je parte, j'avais reçu pas mal de conseils de beaucoup de personnes qui avaient fait ou non le chemin. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment mon expérience qui compte. Et voilà. Et il y en a pour qui il faudra marcher 3 jours, il y en a qui auront besoin de faire l'aller-retour, il y en aura qui auront juste besoin d'être dans leur jardin. Donc que chacun vive sa propre expérience.
Merci de tous ces petits propos et conseils que vous nous avez racontés. Vous pouvez retrouver cette émission chaque lundi à 9h et chaque vendredi à 20h. Vous pouvez aussi retrouver en podcast sur le site d'Allegre FM. L'étincelle dans la ville, c'est aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. On va parler de vous, si vous le permettez, hein, sur nos réseaux. Hein. Vous êtes d'accord ?
Oui, aucun souci.
On se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir pour une prochaine étincelle. Je vous souhaite une bonne suite à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup. Au revoir, Lucie.
Merci, au revoir.
Et portez-vous bien. Allegre FM, Radio Allegre, ça fait plus de 43 ans que ça dure. Alors vous n'allez pas mettre 43 ans pour aller à Saint-Jacques, mais Vous comptez arriver quand, à peu près?
Je n'en sais rien. Probablement en été.
D'accord. Et figurez-vous que l'étincelle dans la ville, aujourd'hui une étincelle dans la campagne, c'est terminé pour aujourd'hui.
Les brouillages de sinistre mémoire ont repris.
En cas de brouillage, cherchez noyeur sur votre cadran.
À Lille FM 93.1.
On peut changer la fréquence en une demi-heure.
À Lille FM 93.1.